Yo, feu de tout bois, ça commence.
C'est une interruption un peu brutale de la musique.
Édition du jeudi 13 novembre 2012. Alors,
salut tout le monde.
Décembre.
Ouais, décembre.
Bienvenue.
Et bonjour.
Alors, en ce jour des annonces, on a plein, puis après plein de choses à nous dire. Dans les annonces, on va commencer. Qu'est-ce qu'on commence direct par demain ? Il y a un concert.
Oui. Et...
Alors, ah ouais.
Directement, ouais. À la Cocoserie, premier concert de la Cocoserie. Donc, vendredi 14 décembre, demain, à 19h, on a plusieurs groupes qui viennent jouer spécialement pour nous à la Cocoserie. Alors, ça commencera par les Gypsy String, c'est du country folk électrique. Après, on a des sets des persos, donc des gens tout seuls. Alors, The Living Dead Caveman, un solo garage rock. Le Temps des Griottes, Politic Lover, les Super Cassos Medletico. Voilà, et également peut-être on aura des interludes de guitare expérimentale, donc je ne sais pas le nom qu'il a donné à son...
Et je ne sais pas non plus.
Et voilà, avec... Ouais.
Bah, c'est, oui, non, vas-y, mais tu allais dire peut-être que c'était 19h et que du coup il
voilà,
y a aussi une petite 19h. Bouffe.
Il y aura à manger, il y aura à boire, évidemment, avec de la bière du Trièves. Voilà, bière artisanale du Trièves. Oui, et c'est prix libre et c'est en soutien à la Cocoserie. Car le mercredi d'après, nous serons en procès à Valence. Donc voilà, venez nous soutenir.
Pas d'inquiétude, il y aura aussi une cantine populaire en plus du procès. La justice, pour l'instant, n'entrave pas... les activités cocoseristes. Entre-temps, il y a une de nos invitées qui est arrivée. Alors, comme on a, tout le monde a dit bonjour, salut Marianne.
Salut.
Et on continue par les annonces de choses encore qui se passent vendredi, car il se passe plusieurs choses vendredi. La psychiatrie et vous, récit de vie. Alors, je vais lire le texte qu'il propose. Nous recevons ce vendredi 14 décembre au Labo, à 19h, Karine Ntakibirora, étudiante en quatrième année aux Beaux-Arts de Valence, qui souhaite témoigner de son expérience personnelle et de son parcours atypique à travers ses créations artistiques, vidéos, photos, textes et peintures. Au cours d'un long séjour en clinique psychiatrique, l'activité créative s'est imposée à elle comme moyen de s'exprimer et de témoigner. Karine, vivre quand on a tout perdu, ou presque tout, mais qu'il y a un petit espoir en vous, cela est-il possible ? Telle est la question que je me pose. Anxiété, bipolarité, TOC, folie peut-être, cyclothymie, etc. L'enfermement est-il une solution ? Sommes-nous vraiment différents des autres ? Sommes-nous dangereux envers vous ou envers nous-mêmes ? Mon travail traite ce sujet avec différents médiums. Pourquoi ce mal-être ? Amour, perte des proches, homosexualité, politique, solitude, mon quotidien nourrit mes créations. Il en résulte un travail presque autobiographique, une sorte de miroir qui m'aide à m'exprimer. Vivre dans un environnement psychiatrique m'a ouvert des portes. Encore faut-il savoir quoi en faire. J'ai commencé par prendre des photos, non autorisées par ailleurs, ayant valeur de témoignage, puis j'ai suivi plus particulièrement une personne au comportement bipolaire que j'ai filmée pendant 2 ans. Le lien d'amitié que j'ai noué avec elle m'a permis d'avoir sa confiance. J'ai pu ainsi réaliser des vidéos où elle se confie, se libère et se met à nu. À travers son parcours, son enfermement et les épreuves de sa vie, elle m'apprend beaucoup et vice-versa. Notre rencontre, qui s'est avérée nécessaire, nous a permis de partager nos grandes blessures de l'âme. Pour découvrir quelques-unes des vidéos de Karine, dont les photos de l'hôpital et Madame X, déjà diffusées sur plusieurs festivals ainsi que ses peintures, et échanger autour de votre vécu de la psychiatrie, venez nous rejoindre ce vendredi 14 décembre à 19h au Labo 8 Place Saint-Jean, à Valence. Après la projection, rencontre, discussion... Nous finirons la soirée autour d'un verre et d'un buffet partagé. Et ben voilà, pour celles et ceux qui seront pas au concert, et ben du coup, il y a des bonnes projections. Et des chouettes trucs au laboratoire 8 Place Saint-Jean. Qu'est-ce qu'il y a encore vendredi qui passe. Il y a aussi des concerts, un truc à la BAF, mais Stéphane nous dira le programme de la BAF météo tout à l'heure, comme annonce dans les jours qui viennent. Le CIKK, l'émission sœur Chronique du Chaos reprendra en janvier. Que les auditeurs auditrices ne s'inquiètent pas pour la santé de son ami animateur, il reviendra tout neuf en janvier. Voilà, comme le Greta a été expulsé mercredi à Grenoble, donc le Greta était un bâtiment squatté, expulsé très tôt le matin. Il y a des expulsions l'hiver, ça arrive. Qu'est-ce que d'autres annonces de trucs
Moi, c'était juste pour rappeler pour le concert, parce qu'on a dit la cocoserie, mais c'est où la cocoserie? C'est
à Adi,
dans le quartier de Cocose. C'est le bâtiment qui est au fond, le collé à la Syrie, le bâtiment rue de la Résistance, qui s'appelle le B2, et ça sera dans l'appartement B202 et B201.
Ah, il s'appelle Poney aussi.
Oui. Ah, peut-être on peut lancer un appel. Il y a des policiers qui sont venus à Cocos et puis à Pluvienne apparemment aussi dans des quartiers HLM et peut-être d'autres quartiers aussi.
Okay.
Et ils sont venus avec des chiens fouiller tout ça. Apparemment ça arrive rarement. Ils ont dit que c'était quand on les a interrogés ils ont dit un truc genre c'est la routine ou je sais pas.
Requête du procureur. Ils sont aussi passés à Cré et à Valence.
C'est beau d'interroger la police.
Okay. Mais alors ils disent que c'est la routine alors qu'en fait ça n'arrive jamais. Des descentes comme ça quoi, c'est un peu chiant, c'est des descentes de flics ou des montées parce que du coup ils ont fait quoi en fait,
ils sont rentrés dans tous les immeubles.
Jusque
ils ont fouillé les placards dans les parties communes.
Ok. Ouais,
si quelqu'un du coup
grosse pression quoi du coup. Allez, on rentre chez vous et puis on regarde partout. Salut Big Brother. Eh ben j'espère que des opérations comme celle-ci te coûtent cher, puis j'espère que vous avez fait chier personne. Voilà. D'autres annonces.
Et puis une petite pensée pour les gens qui sont dans le bâtiment à côté de chez nous, parce que du coup ils ont du chauffage très minimum, hein. Ils sont à 15 degrés et c'est normalement ils n'ont pas le droit d'être à si faible chauffage dans la barque à côté de la barre occupée.
Et à Cocos voilà, toujours.
Et ils payent ?
Et ils payent, bah, bien sûr, hein. 80€ quand même par mois.
Argent trop cher, la vie n'a pas de prix. Voilà, on a fini avec les annonces. On a été
de vendredi, non, il y a samedi, une annonce pour
samedi. Oui, yeah, vas-y, big up.
Alors, moi je veux bien faire l'annonce, mais j'ai pas l'heure exacte de la manif en soutien à la maternité.
C'est 10h, je crois.
10h.
Devant l'hôpital.
Oui, voilà. 10h a dit manifestation en soutien à la maternité et le service chirurgie qui veulent fermer. Fin décembre, mais qui ne fermera pas.
Alors à ce sujet, c'est marrant, je viens de lire sur ce super journal qui s'appelle Dauphiné Libéré, je ne sais pas si vous connaissez.
Hein, Daubé, voilà. On dit.
Ouais, voilà, Daubé. Pas si libéré que ça d'ailleurs, ce journal. Bon, enfin bref. Et il y avait un article de, je ne sais jamais son nom, hein, du big boss du Conseil Général de la Drôme, qui s'appelle Didier Guillaume, voilà. Et qui encourageait tous les élus et conseillers généraux à venir à la manifestation pour la sauvegarde de l'hôpital. C'est marrant ça, non? Alors, je pense que c'est un coup politique. Ouais. Tu vois, il a dû sentir que toute la population était derrière l'hôpital, c'est clair. Donc il se place, mais il invite tous les élus à venir, quoi. Et il est en colère. Il dit c'est pas les technocrates de Paris qui vont faire que, etc. etc. Faut lire ce petit article dans le Dauphiné d'aujourd'hui.
Et c'est peut-être les technocrates de Valence, par contre, qui veulent expulser le squat de Cocos. Donc ce serait peut-être une occasion de discuter.
Oui, et là, par contre, je pense que vous n'avez pas toute la population derrière vous, si tu veux. C'est ça la différence.
En tout cas, on n'a pas le Dauphiné libéré derrière nous.
Voilà, c'est ça. Il vaut mieux l'avoir devant que derrière.
Quand même, tous ces gens qui sont pour l'hôpital autogéré à Die, ils sont aussi pour l'autogestion généralisée. C'est ça qui est rassurant.
Ah bon ? Ah ouais, d'accord, pardon, je n'avais pas compris ça. Mais c'est bien de dire.
Non, mais je pense qu'ils se trompent. Tu te trompes là quand tu dis ça, non ?
Bah, quel avenir étatique pour l'hôpital de Die, quoi. C'est des trucs aussi à réfléchir, en tout cas.
Et s'il n'y en a plus, peut-être qu'il va falloir en faire un autogéré. Ouais.
Alors, que se passe-t-il? Est-ce que nous écoutons un morceau de musique?
Alors, est-ce qu'on est, on écoute un morceau de musique et puis
on avise et après ouais. On vous dit ce qui se passe.
Après, ou alors on parle du programme.
Comme vous voulez.
On parle de ce dont on va parler tout de suite. Ou.
Musique.
Ah, il a fait musique. Ce programme. Ah, bah, sur la musique, peut-être. On peut faire les deux. Tac, vu que c'est la météo et tout.
Sur la musique, on a.
Allo, allo. Allo, la technique. Ça vous dit
technique, oui.
Bah vas-y, commence le...
Ah, on l'entend.
Bon alors, c'est pas moi qui viens de...
bon petit je sais pas, c'est bizarre quoi, il y a bon ordinateur, c'est branché tout ça et pourtant ça marche pas. Attends oui mais toi t'es pas branché.
Excusez-nous, hein, ça va bien se passer.
Je t'avais censuré Aline, excuse-moi.
Ça va venir.
Ouais. Allô, ouais.
Ah mais oui, mais t'es parce que voilà, tu vois, moi je te vois bleu et en fait t'es vert clair.
Ok, je sais pas. Ouais, là je m'entends en tout cas. Super, je sais pas comment je me vois, mais je m'entends. Un super programme à lire pendant la musique qui ne passe pas.
Voilà, alors c'est un petit programme qu'on va passer et que je vais vous lire. Ça vient de Grenoble. C'est le programme de décembre 2012, forcément. Et ça se trouve à la BAF. C'est la BAF qui organise ça. C'est une association de spectacles autogérés, a priori. Même c'est surtout ça. C'est même un centre social autogéré qui met en place diverses activités autour de valeurs communes, de solidarité, d'horizontalité, de convivialité.
Vas-y, on en a déjà parlé.
D'autogestion. tu me coupes pas la parole comme ça. Alors le vendredi 14, donc toujours le vendredi, il y a des concerts là-bas. Il y a The Swamps, voilà.
Parce qu'il y a la météo, je te coupe. Parce que, ouais, du coup, vas-y, mais faut.
Il y a Tolar, il y a De La Cave.
Tolar, c'est super.
Je connais pas du tout ces groupes, mais ça a l'air pas mal.
Ouais. Hein. Et ce jour-là, il fera quel temps?
Alors ce jour-là, couvrez-vous, il fera très très froid, ils annoncent moins 40 à peu près sur Grenoble.
Ok, donc le vendredi 14, c'est ça. Hein.
Voilà, évitez de sortir.
Restez à 10, allez au concert.
Évitez de sortir de chez vous.
Vous savez ce que vous loupez là-bas.
Donc tant pis pour le concert, on s'en fout. Après, il y a samedi, c'est le 8. Donc
okay,
c'est
samedi 8 janvier.
Je crois que c'est 14. Ouais, ça doit être 8. Ou alors c'est 8 décembre, c'est passé, autant pour moi. Donc on passe au mercredi 19 décembre à 20h au Ciné Club. Donc toujours à la BAF. Donc il y a New York 1997 de John Carpentier. Je connais pas.
Il est super.
Ça a l'air dément.
Quel jour il fera ce jour-là?
Carpenter.
À New York.
Carpenter. À New York, à peu près pareil qu'à Grenoble la veille, donc moins 40.
Ok, d'accord.
Ouais, faut sortir couvert. Okay. Donc restez chez vous, ça sert à rien d'aller au ciné.
C'est chaud, froid, quoi.
Ouais, voilà.
Date suivante.
Ouais, le jeudi 20 décembre, toujours dès 19h. Soirée Marseille, spéciale Marseille. Soirée contre Marseille 2013 et contre la gentrification culturelle. Alors, si quelqu'un peut me dire ce que c'est que la gentrification,
là, on en parlera en émission là-dessus. Ok.
Ok, okay, merci.
Du coup, il fera quoi, quel temps,
j'en sais un peu plus. Bah, Marseille, il fait toujours beau et chaud. Il fera 20-22 sur la Côte d'Azur, tranquille. Okay. Gros soleil et tout. Pas de Mistral, impeccable.
Pour la BAF, alors.
Ouais, voilà, c'est ça.
Hein,
merci.
Ah non, encore une. Encore
ah non, il y a le 24. Oui, lundi 24, dès 16h. Permanence de la bibliothèque féministe. Attention, goûter, discussion autour des livres qui nous ont marqué, dans nos parcours féministes. Venez avec vos bouquins, zines, brochures et autres supports textuels. Ce moment sera suivi d'une boum en non-mixité, meuf, gouin, trans, thématique, ramène ta fouf, customisée si tu veux. Yeah. J'invente rien, c'est marqué.
C'est déjà fait la BAF. Quel temps ce jour-là alors?
Alors attends, PS, il ne s'agit pas de dévoiler son sexe, mais de fabriquer des foufes mutantes, tout droit sorties de nos imaginaires dépravés et chatoyants. Ça envoie du lourd. Bon, moi, j'irai pas parce que je peux pas. Je suis pas adapté à cette soirée-là, mais s'il y a des filles motivées, allez-y. C'est à Grenoble, c'est le 24 décembre à 16h.
Et quel temps il fera pour
il fera chaud, pour très très chaud.
Ok, eh ben, super. Alors du coup, je ne sais pas si la musique est réparée ou si on passe.
La musique est réparée.
Alors on s'envoie une zik avant de passer à notre discussion, à une de nos discussions, mais en tout cas une discussion autour de Cocos et de la pédagogie sociale qui s'y passe là-bas et une discussion suivie dont les habiteurs et habitrices. Voilà, ça veut tout dire. Musique.
Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba, por ver si Franco llegaba. Solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Tierras altas de Burgos, andamola sublevado, andamola sublevado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado, cuando llegue el tren blindado. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y mola se va a paseo, y mola se va a paseo. En el tren blindado, camino de Andalucía, camino de Andalucía.
che Capo Degliano, alberlo, retroseria, alberlo, retroseria. Anna jaleo, jaleo, silba la locomotora, y Capo se va a paseo, y Capo se va a paseo.
Salut, salut, salut. Alors on revient pour parler de pédagogie sociale. On en a déjà parlé il y a deux semaines avec Greg. Et là ce soir avec nous, on a Marianne qui apparaît aussi. Je ne sais pas si on m'entend, je vais monter.
Si on t'entend, enfin, moi je t'entends très bien, mais en dehors de même du fait que je suis dans la même pièce que toi.
Ok, super. Qui a... dont un texte paraît aussi dans cette revue Notre École, et c'était sur l'idée de suivre cette revue pendant une autre émission que l'émission précédente, et de parler de ça. Et Marianne habite à Die et participe entre autres à cet atelier. On a un micro entre nous là. Vas-y, qu'est-ce que tu peux dire sur ce texte?
Vous me posez des questions, je ne me rappelle plus de ce que j'ai écrit. Tiens, ça me fait bizarre, je ne l'avais pas vu encore imprimé. Et
ouais,
tout,
je viens de te filer le numéro.
Ils ont mis des titres, et c'est chouette.
Ils ont mis une photo, ouais. Et y a...
Des liens à recoudre, ouais, il s'agit bien de ça. Ouais.
Tissu social, des liens à recoudre. J'ai pas le... Du coup, je t'ai filé le numéro. Moi, j'en ai un autre qui traîne quelque part dans le studio, je ne sais pas où. Mais voilà, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je me rappelle du titre. Et après, dedans, eh ben, tu racontes un peu toute l'histoire de cet atelier. Alors effectivement, on n'est pas obligé d'en parler, puisque ce numéro papier que tu as, il est aussi... Voilà, vous n'êtes pas obligé... vous pouvez aller voir Marianne et lui demander de vous le prêter. Vous pouvez aussi passer à la bibliothèque Infocus La Cocoserie, où il sera dès demain disponible, et lire plus sur l'histoire de... Qu'est-ce qui s'est passé à Cocos, comment ça a commencé, tout ça.
Ouais, et j'ai pas trop envie de refaire tout l'historique.
Il est fait dans ce texte que tu as écrit. C'est super. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, j'y étais à un moment.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je trouve qu'il se passe pas grand-chose. Okay. Peut-être parce que c'est l'hiver et que chacun reste chez soi parce qu'il fait froid. Peut-être parce qu'il y a une ambiance un peu bizarre à Cocos en ce moment. J'ai envie de dire... moi je travaille principalement avec les gamins parce que cet été les adultes commençaient à s'approcher, mais vraiment ils commençaient à s'approcher, ouais. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là je sens chez les gamins, je sais pas trop comment appeler ça, il y a une petite fille la semaine dernière qui s'est mise à hurler, à pleurer, vraiment très très fort.
Okay.
On aurait dit Mafalda. Je sais pas si tu vois,
oui,
Mafalda,
tout
quand
à fait.
Ouais,
on pense souvent à ça quand.
C'était quand même assez exceptionnel là. J'avais encore jamais vu ça. Donc il y a pour les gosses, il y a vraiment un truc hyper angoissant.
Ouais.
Ça, voilà. Ben, ceux qui participent à l'atelier quand il fait froid et quand il pleut et qu'il faut rester dehors.
C'est une des choses que dit le terrain, là-bas. Il y a ce truc d'être sur le terrain, d'y aller, d'y être. Ouais, du coup, en habitant là-bas et en allant dès que je peux à ces ateliers, il y a vraiment ce truc d'être sur place.
Ouais.
Et quand celui que j'ai fait, j'ai pas eu l'occasion de te dire, Marianne, on avait joué à la pétanque, on avait utilisé ce terrain de pétanque, voilà, c'était parce que je voulais faire cette transition, après je me rappelais plus. Et on avait fait une partie de pétanque jusqu'à ce qu'il fasse trop froid et que les doigts nous gèlent. Et à 4 heures, on était prêts à goûter dans le local de l'espace social et culturel de Die et du Dioa. Et là, on est tombé sur le maquillage, ce qui fait qu'on a encore fait une demi-heure de maquillage avant de faire le goûter à 16h30. Sursaut. Et cependant, il faisait froid, puisque les chauffages avaient été coupés dans notre appartement de l'espace social. Et que c'était justement l'occasion pour deux personnes de l'espace social et solidaire de venir eux-mêmes poser des chauffages, puisque le chauffagiste a pas voulu venir poser des radiateurs. Et ce qui fait que, enfin, ça a été l'occasion plus tard pour eux de faire ça. Pendant l'atelier que j'ai fait, on n'avait pas de chauffage. Et on a quand même, on s'est quand même activé avant de goûter. Et puis ouais, après, et puis à 5h, on avait fini, 5h30.
Ah, c'est souvent dans ces ateliers, même s'il n'y a pas de chauffage, on a chaud quand même.
Ouais. C'était bien d'avoir ce petit coin à l'intérieur quand la nuit tombait,
ouais.
Mais je ne sais pas
oui,
comment faire autrement.
Oui, ce
petit coin à
l'intérieur,
que faire avec ce froid, quoi.
Bah, que faire avec ce froid, courir.
Ouais. C'était ça.
Je voulais appeler tant. Courir ensemble.
Ouais.
Parce que courir tout seul, ça tient moins chaud.
Ouais.
Mais d'être actif ensemble, c'est clair que tout de suite, ça tient vachement plus chaud.
Là, tu fais plus de jeux actifs ces
ouais,
temps-ci.
Ouais. Ah ouais, vraiment. Je me suis un peu découragée sur les ballons. J'ai ramené un ballon plusieurs fois. J'ai ramené un ballon et à la fin de la séance, il n'y avait plus de ballon. Je sais pas où ils passent, les ballons. Voilà, jouer au ballon, des jeux collectifs, ça, en ce moment, c'est d'actualité. J'en connais pas beaucoup. Si vous en avez, je veux bien des recettes.
Ouais, des idées de jeu, des ballons. Parce que c'est vrai que moi, je comprends pas non plus ces ballons. À chaque fois, à la fin, je me fais avoir en me disant, c'est le ballon, non, c'est le ballon de machin. Ah bon, bah tiens, hop. Et c'est vrai que des fois, je le range pas le ballon, alors qu'après, toi, tu te dis, ah bah en fait, non, c'est arrivé une ou deux fois, quoi, où en fait, ouais, le ballon, il est bien utile en dehors. Il est bien utile
ouais,
en dehors des ateliers.
Je m'inquiète pas pour
c'est
ces
court,
ballons.
Ce ballon,
je devrais m'acharner à ramener un ballon chaque semaine.
Ou faire des appels à ballons.
J'imagine pas qu'un ballon ça puisse pas jouer quelque
ouais.
part quoi.
Bien avec puis avec d'autres choses, puis avec comme tu dis des idées de jeu et tout ça quoi.
Ouais.
Ouais. On s'est dit qu'on faisait cette émission, cette discussion en plusieurs tranches, puisqu'on a tenant aussi Fatna et puis tout à l'heure on aura aussi Mélodie au téléphone et que entre on parlerait d'un autre sujet qui nous est cher, qui est Notre-Dame des Landes par exemple. Et je crois que des sons ordinateurs, hein, mais des micros que je peux commencer à présenter comme ceci, des micro-bocages, non.
They used to call you a fool, but you were so pretty. Young and singing loud, I guess we were so silly. Now I feel like a popcorn and I don't even give a shit. I swear I don't even give a shit.
Voilà, donc on reprend la parole après ce petit morceau de musique du groupe Cocoon. Et donc, effectivement, on va vous diffuser maintenant un extrait d'une... J'ai l'impression que je ne m'entends pas du tout. C'est possible ? Dans le casque, je ne m'entends pas.
Si. Ah bah, c'est ton casque, marche mal alors.
Voilà. Donc, un extrait d'une émission qui s'appelle Micro-trottoir des barricades, qui a été réalisée par Radio Zinzine, qui est une radio, on peut dire, une radio amie, en tout cas amie avec des gens qui sont ici. Une radio libre qui est dans les Alpes de Haute-Provence, à Fort-Calquier, qui mène depuis assez longtemps. Et donc, Micro-trottoir des barricades, c'est des entretiens qui ont été réalisés début décembre avec des personnes qui étaient à Notre-Dame-des-Landes, qui étaient dans la lutte et qui racontent ce qu'elles ont vécu, mais on va dire plus d'un point de vue anecdotique et avec des de raconter la vie quotidienne et des choses concrètes qui se passent que d'un point de vue d'une vision générale de la lutte. Donc ça, voilà, ça donne un point de vue un peu complémentaire avec plein d'autres choses qu'on a pu en dire. Et donc je vous propose d'écouter ce micro-trottoir en deux parties avec deux personnes qui s'appellent Camille et qui vont nous raconter ce qu'elles ont retenu et ce qui les a marqués là-bas.
Donc bah voilà Camille, toi, si tu veux parler de ton anecdote et des choses qui t'ont fait soit pétiller les yeux, soit un peu, je sais pas, retourner le cerveau.
Bah, je crois qu'il y avait quand même, bah, autour de la manif du 17, là, c'était vraiment, bon, c'était complètement fou, quoi. Il y avait des gens partout. On était au milieu de la campagne. Et sur des routes où d'habitude, on marche tout seul. Et puis là, on était juste entouré de gens partout. Et puis partout où le regard portait sur la route, d'un côté et de l'autre, paf, il y avait des gens. Et des tracteurs. C'était vraiment impressionnant. Et puis ce truc où, en fait, à un moment donné, par exemple, sur les tracteurs, il y en a qui s'étaient levés à 9h, quoi, et puis ils ont commencé, parce que les tracteurs devaient être en queue de cortège, à se mettre sur la file, là, et puis il y avait les tracteurs. Puis en fait, à un moment donné, il était 15h, ils n'étaient toujours pas partis, ils avaient les bêtes à s'occuper, alors ils sont partis, quoi, ils sont rentrés, ils n'ont jamais pu faire la manif, tellement il y avait de monde et tellement il y avait de tracteurs. Bon, ça, c'était un peu fou, puis autour du... Fallait imaginer, quoi, tous ces gens, en fait, à un moment donné, hop, quand la fin de la manif, la nuit qui est tombée, où il y avait des lucioles partout, quoi, qui s'agitaient comme ça, parce que, je veux dire, la ZAD, c'est la campagne profonde, il n'y a pas un lampadaire, c'est le noir, donc hop, on voit tous les gens avec lampe frontale, lampe de poche, qui vont, qui viennent, qui font des trucs, puis en fait, je sais pas, le soir, il y avait peut-être encore 10 000 personnes, en fait, sur la zone. Et c'était vraiment hyper impressionnant de voir tous ces gens qui s'agitaient partout, au milieu, dans la gadoue. C'était vraiment très, très étonnant. Et puis, alors faut voir aussi qu'à un moment donné, autour du campement du Rosier, par exemple, il y avait quand même deux énormes barricades d'un côté et de l'autre, 2,50 m de haut, 2,50 m de profondeur, avec des tonnes de bois, des rondes-balles de paille, enfin...
Quand tu dis 2,50 m de profondeur, c'est-à-dire que la route était creusée sur 2,50 m.
Bah, il y avait 2,50 m de trucs entassés sur la route, quoi. De toutes sortes, en fait. Et du coup, pour contourner la barricade, il y avait des petits chemins comme ça, et où il fallait, avec sur un bout de bois, enjamber le fossé, faire un tour dans la forêt, puis revenir de l'autre côté, réenjamber un bout de bois, et puis là, on pouvait continuer la route. Et faut quand même se rendre compte que peut-être, moi en tout cas, avant ce moment-là, j'avais jamais vu de barricade. C'est des expressions de cop quand on s'amuse comme ça dans les imaginaires un peu révolutionnaires ou je sais pas quoi, on se dit non mais on se retrouvera bien sur les barricades, des choses comme ça. Bon, là voilà, elles étaient devant nous, quoi. Et peut-être il y a 10 000 personnes qui ont à un moment donné vu ces barricades et qui se sont dit ah c'est super. Ou en tout cas qu'on vu, quoi, dans leur de leurs yeux, vu une barricade pour la première fois de leur vie. Je parle pas de trois poubelles renversées sur une route, quoi. Je parle d'un truc où il faut amener un tractopelle pour dégager la chose, quoi. Je parle de, parce que derrière la barricade, il y avait aussi des trous. Ils avaient creusé les trous sur un mètre de profondeur et de un mètre de large dans la route, quoi. Voilà. Et avec cette scène un peu, à un moment donné, d'avoir croisé une personne qui était en train de creuser le bitume, et puis comme ça, et puis qui fait à un moment donné, « Ouah, le bitume, j'arrive à l'enlever avec les mains !» Non, mais en fait, c'est comme le capitalisme, on a l'impression que c'est dur, mais si on s'y met à suffisamment nombreux, en fait, on peut l'enlever comme ça, quoi. Ouais, c'était génial. Bon, voilà, alors après, aussi, il faut... Bon, quand on amène 40 000 personnes comme ça, il y a forcément des trucs qui sont pas... faciles, quoi, disons... le concert qui avait lieu le samedi soir de la manif, là, par exemple, c'était quand même bien ambiance, viril, sueur. Et puis, voilà, tout y passait, quoi. Il fallait que... Enfin, Héros, c'est un enculé, Duflo, c'est une salope. Enfin, voilà, et on entendait des gens arrêter avec des propos homophobes, sexistes, puis globalement, l'ambiance gros gars, quoi. Alors, bon, il y a des gens qui sont montés sur scène pour dire, bon, c'est un peu nul. Une première fois, des gens qui sont montés sur scène une deuxième fois, puis une troisième fois, il y a un gars qui est monté sur scène, puis je vois bien qu'il était bien intentionné, hein. Il a quand même, je trouve, loupé complètement son coup, quoi. Il est en train de dire, ah, bon, les propos homophobes et sexistes, ça fait chier, hein. Et puis, et là, il a commencé à jouer avec la foule, quoi. À faire, bon, mais en fait, est-ce que vous voulez dominer les femmes? Et puis là, la foule qui répond non. Bon, sauf trois pélos qui se croient très drôles et qui font oui. Et puis ensuite, il enchaîne, quoi. Est-ce que vous êtes homophobe? Non. Est-ce que... Mais je veux dire, c'était vraiment comme si... Comme si on pouvait poser une question à... bref, voilà, j'en perds mes mots tellement je trouve ça étonnant comme approche de la question, quoi. En tout cas, bon voilà, mais après, faut... Ouais, je sais pas, faut quand même imaginer que il y avait enfin, à ce moment-là, il y a cet autre moment, en fait, il y avait tellement de monde, et tellement de tous les gens, ils voulaient faire un truc, mais en fait, il y avait pas assez de trucs à faire pour tout le monde, mais du coup, c'était quand même globalement le bordel, globalement très désorganisé, mais en fait, c'était pas un souci, parce qu'il y avait tellement de gens pour faire des trucs que quand il y avait besoin de faire un truc, ben hop, les gens, ils étaient 40, et puis ça se faisait, quoi. Et je trouve le déchargement des tracteurs, par exemple, pour amener le matos sur le terrain de construction des cabanes, là, c'était vraiment hyper impressionnant, c'était trop ça. C'était à un moment donné, les gens, ils ont commencé à se passer des trucs, c'était le bordel, c'était compliqué, il y a eu des tentatives de chaîne, ça se mettait pas très... Puis en fait, à un moment donné, il y avait tellement de gens que juste ça a fait une haie d'honneur, quoi. Les gens, ils étaient épaule contre épaule, et de main en main, ils se passaient des bouts de bois. Mais ça allait plus, enfin ça allait super vite, ça allait plus vite que sur une chaîne de montage, quoi. Tout, ça descendait, ça traversait comme ça. Les gens, ils faisaient 20 cm avec leurs mains, quoi. C'était ça le mouvement, parce que tellement il y avait des gens qui étaient collés les uns contre les autres. Et plein de trucs de cette journée, c'était un peu ça, quoi. C'était, bon, c'est le bordel, mais il y a tellement de gens qui veulent en faire des trucs et qui veulent y arriver que hop, ça se fait. Ouais, c'était fou.
Et toi, tu y es monté que pour la manif du 17 ou tu y es resté un peu après
Non, je pouvais pas rester après. Du coup, j'ai vraiment vu que ce moment-là, quoi. Bon, après, c'est un peu... La suite, je l'ai vécu avec mon navigateur web en regardant le site et en essayant d'avoir des nouvelles des gens là-bas. Et c'était un peu... C'était frustrant, quoi. C'est sûr que vivre ces moments-là... Et ce que je veux dire, faire 900 bornes pour aller faire cette journée là-bas, on s'approprie vraiment le ce qui se joue, quoi. Il y a un truc d'être dans ces paysages qui sont hyper beaux, de voir les enjeux, de voir comment c'est en fait ce qui se joue là-bas. C'est quand même aussi un rapport de force entre une certaine approche du monde et une autre. et aussi de me dire, mais en fait là, d'avoir vécu ces dernières semaines, me dire, mais on va gagner. Là, il faut juste qu'on arrive à tenir suffisamment longtemps l'occupation sur place, mais en fait, c'est tellement massif. Quand on voit que le Figaro et les Échos, ils disent, non, mais il faut arrêter l'aéroport. Bon, je veux dire, il y a un moment donné... Après, il y a toujours la question, ok, s'ils disent qu'il n'y a pas d'aéroport, qu'est-ce qu'on va gagner, quoi. Ça, parce que, voilà, à un moment donné, une bonne partie des gens qui étaient là, elles étaient là... les personnes, elles étaient là contre l'aéroport et son monde... Une fois qu'il y a plus... Ça, maintenant, j'ai bon espoir que, vraiment, hein, que l'aérosport, ça soit gagné. Le monde derrière, bah, va falloir encore se battre.
Après, ça fera toujours un espace, hein. Je veux dire, on fait la comparaison avec le Larzac. Le fait que l'espace ait été occupé au Larzac, c'est pas que négatif.
Ouais. Bah, après, moi, on entend souvent, les experts... de la lutte, qui sont venus habiter là. Moi, en fait, les personnes que je connais qui sont là depuis 3 ans, elles se projettent sur leur vie. Elles n'ont pas du tout envie de partir de cet endroit maintenant. Parce qu'elles ont créé des liens, parce qu'elles ont des amis, parce qu'elles se sont attachées à l'endroit. Enfin, je veux dire, c'est sûr que si l'aéroport se fait pas, elles vont avoir envie de rester. Et parce que c'est déjà chez elles et que en fait aussi, voilà, de parce qu'à un moment, cette région-là, elle s'était quand même un peu désertée aussi. Et là, en fait, hop, il y a, ça fait un territoire qui vit, quoi, de nouveau. Et je pense qu'il va continuer à vivre. Enfin, en fait, qui veut continuer à vivre, quoi. Du coup, c'est ça aussi pourquoi il n'y aura pas d'aéroport.
Voilà, petit premier extrait donc, de cette émission qui s'intitule « Trottoir des barricades ». Et donc là, je vous en ai sélectionné seulement deux extraits parce que c'est une émission qui dure un peu plus d'une heure, donc c'est assez long. Et donc je vais pas tout vous passer maintenant dans Feu de tout bois parce qu'on a plein d'autres choses aussi dont on a envie de vous parler, mais si cette émission ça vous parle et ça vous donne envie d'écouter d'autres témoignages, parce qu'il y en a plusieurs autres et ils sont tous très intéressants et très instructifs, et ben vous pouvez aller écouter la suite de cette émission Micro-trottoir des barricades sur Radio Zinzine. Donc Radio Zinzine, ça s'écrit Z-I-N-Z-I-N-E. Et alors, pour trouver le bon Radio Zinzine, si vous tapez sur Google, par exemple, au hasard, pour ne pas faire de pub, mais en faire quand même, vous tapez le nom de la radio, et ben parce qu'ils ont à peu près 4 sites internet, ils ont changé plusieurs fois de site internet, donc il ne faut pas se tromper. Donc c'est le site www.zinzine.domainepublic.net. C'est sur ce site-là que vous pourrez télécharger l'émission. Et puis, on en profite pour faire un peu de pub en général pour Radio Zinzine, qui est une radio qui produit beaucoup d'émissions sur des tas de sujets variés, politiques, sociaux, culturels, en tout genre, et fort intéressant. Et donc, vous pourrez aussi, du coup, si vous allez faire un tour sur ce site, écouter d'autres émissions produites, fabriquées par Radio Zinzine, et puis découvrir des choses intéressantes. Et donc, on va écouter maintenant un deuxième extrait, et puis après, on va repasser à d'autres sujets, voilà.
Micro-trottoir des barricades, en quelque sorte, c'est voilà, les anecdotes qui t'ont marqué, ce qui t'a plu ou déplu, voilà.
Ce qui, à la fois sur les barricades, mais sur aussi toute la zone, enfin toute l'histoire qui s'est passée pendant cette semaine-là. Si je peux attaquer peut-être sur les barricades, moi, ce qui m'a plu, je crois que il y a une histoire de, il y a à l'ambiance que ça a créé et le contexte dans lequel ça s'inscrivait, rapport au... Moi, sur la fin, en fait, le lundi, il y a eu une déclaration de la préfecture que, sur des éléments de négociation entre le démontage des barricades et la non-intervention sur les zones occupées de construction. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah ben ça, en fait, ça, c'est un truc qui me parle. Et je me suis dit, bah là, les barricades, elles ont pris un sens qui était... Qui avait de la valeur dans le rapport de force qu'on a instauré là-bas, beaucoup plus que ce que j'ai pu vivre et me dire, en fait, parce que construire une barricade, on a fait ça, c'est super joyeux, c'est super, on a l'impression de s'inscrire dans un truc de lutte, etc. Mais concrètement, si on part du principe que l'objectif c'est la non-intervention policière sur une zone d'occupation, l'efficacité et elle s'est pas retrouvée dans la présence physique des barricades, mais plus dans le symbole que ça représentait, je pense. Et du coup, sur place, c'est pas là où je me suis dit, ah ouais, c'est pertinent forcément de le faire, mais c'est plus après coup où je me suis dit, ah ouais, ils essayent de tenter un rapport de négociation, ça veut dire qu'ils sont quand même en porte-à-faux vis-à-vis de ce truc, et du coup, j'y voyais un intérêt, quoi.
Après, je sais pas, moi, c'est le côté d'avoir des anecdotes de vie, de ce qui s'est passé, parce que voilà, on a toujours les images des affrontements et je veux pas le minimiser, mais voilà, on est arrivé dans un moment de cristallisation là assez particulier. Il y a plein de gens qui sont venus de plein d'endroits, ça a fait les premières pages, il y a eu un énorme dispositif policier, militaro-policier, donc voilà, en fait, et ça a duré quand même très longtemps. Habituellement, on a un jour, deux jours comme ça d'émeutes et d'affrontements avec les flics, mais c'est pas forcément aussi long sur la distance et aussi ancré sur un territoire, vu qu'il y a ce côté de vouloir défendre la zone et que donc bah, les gens ils vivent là-bas, tout ça. Donc en fait, comment ça se passe, où ça se passait au quotidien, quoi.
Au quotidien, je pense que c'est des moments assez intense dans les charges de travail qu'on s'est fixées, je pense, où on passait tant de réunions à tant de construction, à tant de surveillance du site, Et je crois que c'était quelque chose d'assez intense et auquel on a... Nous, je pense qu'on était ancrés dans un truc où on n'avait pas cette vision de l'extérieur et on n'a pas, sur le moment, cerné du tout les enjeux, je pense, dans lesquels on s'inscrivait. Ou si, peut-être le premier jour, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une manifestation, qu'on organisait une manifestation où il y avait 40 000 personnes, là peut-être, là, on a commencé à se dire « Ah ouais, il y a quelque chose qui joue là, à ce moment-là. » Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce qui se joue là, comparé à d'autres manifestations qui ont été organisées avec des objectifs de manifestation qui dépassent simplement un moment de représenter quelque chose, de signifier quelque chose par un cortège ou des choses comme ça, on pourrait. Moi, je me disais une comparaison qui me semblait pertinente, c'est celle, par exemple, de la manifestation qu'il y a eu l'année dernière dans le Cotentin à Valognes, où les gens ont voulu montrer leur désaccord en occupant les voies de chemin de fer. Là, on s'est retrouvé dans un contexte complètement différent, où il y avait une convergence, enfin pour moi une espèce de convergence de plein milieux politiques différents, qui a fait que ça a créé quelque chose, une émulation et une présence énorme, et un rapport de force que j'ai trouvé moi assez démentiel, je pense. Et du coup, dans la vie quotidienne, ça a été des rencontres et puis des temps d'activité super forts, quoi.
Je sais pas, un souvenir particulier, une odeur, un son.
Un son, je sais pas, un truc peut-être complètement personnel, mais à un moment donné, je me suis quand même posé la question de pourquoi je courais et que peut-être que... cette espèce de doute de savoir si ta place elle est vraiment là et que t'es vraiment dans un truc pertinent et que tu vas pas te retrouver en espèce de martyr d'une cause ou je sais pas quoi à un moment, enfin pas par rapport forcément à la répression, mais savoir si ton action a vraiment un sens, tout ça. Mais sinon, je sais pas, la boue, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Je pense que il y aurait pas la boue, on n'en serait pas arrivé là. Je crois vraiment, il y a un truc qui s'est joué avec la boue, qui a démoralisé. Enfin, nous, on est resté quand même pas mal de temps. Du coup, on s'est habitué, le corps s'habitue à cet environnement, tout ça, un peu froid, humide et boueux. Et je pense que ceux qui sont le plus mis dans un truc un peu, enfin, déprimant, je pense que c'est les flics, quoi, parce qu'ils en ont eu marre de ce truc-là. On avait la sensation, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de on-dit là-dedans, mais qu'ils s'engueulaient, qu'ils n'arrivaient pas à s'organiser, et qu'il y a eu un truc où on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je pense que le contexte dans lequel, enfin, climatique dans lequel on a évolué a été aussi à notre avantage à ce moment-là, quoi.
Ok.
Everybody, come together. Come on.
C'est une de rupture, une émission de rupture. Salut Mélodie, tu es en ligne à Radio Diwa.
Salut, salut.
Sur le 107.5, où on peut aussi nous écouter sur internet rdwa.fr. Et dans Feu de tout bois aujourd'hui, tu es peut-être en ligne et tu as peut-être déjà entendu qu'on a commencé à discuter avec Marianne à propos de notre école et d'un truc un peu prégnant. Moi je ressentais, et Marianne m'a confirmé ça hors micro, de trucs de mort à Cocos qui fait froid dans le dos. On parlait juste avant, comme a fait exprès, de descente de police dans toutes les cités c'est-à-dire à Pluviane et à Cocos, des trucs avec des chiens qui fait partie des trucs pesants qu'il y a en ce moment dans le monde et de ce truc dur. On était sur cette dureté. Je ne sais pas si ce que tu as ressenti, toi, ou ce que tu en penses.
La question, c'est est-ce que j'ai ressenti ça?
Du coup, la question était multiple. Tu as pu nous écouter au début de l'émission?
J'ai écouté un petit peu le début, en fait.
D'accord.
Après, ça a bugué sur mon ordi.
D'accord. Eh bien, du coup, là, tu es en direct au téléphone. Du coup, tac, tu peux pouvoir... Non, ça va marcher. Et du coup, oui, donc en fait, je synthétisais ou je donnais mon impression, une impression qu'on a partagée en tout cas avec Marianne, de ce qui ressortait du morceau de discussion qu'on a déjà eu à propos des ateliers à Cocos et d'une ambiance de mort. Voilà, on était un peu dans. Ouais, qu'il y avait des trucs de lourds et tout ça, et que c'était un des trucs qui ressortait de ce truc lourd.
J'ai pas été là lors des derniers ateliers. Mais ce que je sais, c'est que les enfants peuvent être vraiment des éponges et il y a en effet des faits qui peuvent apparaître assez violents. Mais je dirais que c'est là où, en fait, en pédagogie sociale et lors des ateliers où nous sommes importants, c'est des moments où justement les enfants peuvent mettre en mots, mais les mots MOET, les verbaliser, les confronter avec d'autres et c'est là où nous pouvons agir. Et c'est ce que je pense que Marianne a fait de manière le plus juste possible. La parole a circulé et déjà que si les enfants ont pu s'exprimer, c'est déjà une très bonne chose.
Ouais,
maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez violent, la présence de policiers, le fait qu'il y ait un avenir incertain pour l'ensemble des habitants. Et ça, en effet, ça crée de l'angoisse. Et c'est pour ça, je redis, que les ateliers de rue sont nécessaires.
Alors c'était un exemple, Marianne voulait intervenir, vas-y Marianne.
Je suis en difficulté par rapport à la mettre des mots sur ce que vivent les enfants ou les adultes, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui vivent des choses un peu dures en ce moment. C'est super difficile de la mise en mots, mais je pense que la seule chose que j'arrive un petit peu à faire, et ma foi on va continuer comme ça, c'est de laisser un espace... pour que ce soit possible de dire, même si je pense que là les gamins ils sont pas en mesure de dire qu'ils sont angoissés, pourquoi qu'ils ont vu des choses ou je sais pas quoi, ou entendu, ou non, ils sont pas en mesure de le dire. Par contre, ils savent que tous les samedis après-midi de telle heure à telle heure, ils ont un espace où ils ont la petite liberté et que s'il y a quelque chose qui sort, et ben là ça peut sortir. Et que je pense que là, pour l'instant, ça me paraît normal que la mise en mots, elle ne se fasse pas. Le verbal, ce n'est pas pour tout de suite. Et ça crée une difficulté supplémentaire, mais bon.
Je peux ajouter quelque chose?
Oui,
avant que tu ne reprennes la parole, je voulais juste faire un coucou à Fatna qui j'espère est à l'écoute. Elle a peut-être pas réussi à venir dans les studios, mais elle est aussi active et puis ben j'espère que si tu arrives pas à venir cette fois Fatna, que tu viendras en parler une autre fois mais sinon viens, hein, tu as le temps. Et vas-y à toi Mélodie. Donc coucou Fatna.
Excusez-moi, c'est parce que souvent ça me. Ce que je voulais ajouter, c'est d'où l'importance de s'outiller. C'est-à-dire que moi je vais prendre l'exemple des Robinson, Intermède Robinson, qui est aussi une association basée dans la région parisienne, ou qui réalise également des ateliers de rue. Et nous avons été confrontés il y a quelques années en fait à la destruction, enfin on va dire à la réaménagement de l'espace là où vivaient les enfants, les familles. C'est-à-dire qu'ils voulaient réaménager les parkings sans concertation. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, plusieurs de mes collègues nous avons proposé un conseil d'enfants. Et en fin d'atelier, en fait, on s'assoit tous ensemble en cercle. Nous avons un bâton de parole et nous, les enfants, les adultes, ont la même place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la voix d'un enfant ne vaut pas plus ou moins qu'un adulte. Et nous proposons de discuter, d'échanger sur justement notre quotidien. Et ce temps a vraiment cheminé. Au début, c'était vraiment des échanges assez timides pour arriver maintenant à quelque chose d'assez construit où les enfants argumentent, proposent, mettent pour le coup vraiment des mots sur la MAUX, aussi leur réalité, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ça, je te rejoins Marianne, mais je pense que c'est si on avait les moyens et plus de temps, la possibilité de soutenir. Maintenant, en effet, la présence qu'on peut apporter, le fait que le groupe aussi, le groupe est, comment dire, sécurisant, il permet aussi de qu'il y ait des relations riches entre les enfants, mais aussi également avec les adultes. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Oui, on t'entend très bien. À l'aide.
Ouais, Mélodie. tu parlais d'intermède Robinson. Ça me fait pas. On peut répéter ici, redire pour du coup que l'école, cette revue Notre École, dans laquelle tu écris aussi un article de deux pages, un entretien où tu présentes aussi, tu parles de toi, de ce que tu fais, et aussi de pas mal de Intermède Robinson, et d'un livre qui vient de sortir, Des lieux pour habiter le monde. Il est aussi du coup dans, on va peut-être pas parler de l'article, on n'est pas obligé de parler de l'article puisque cet article il est disponible à la bibliothèque Infocus de la Cocoserie. Et puis voilà, alors comme je disais aussi, ça y est, Marianne a un exemplaire, Fatna, je te filerai un exemplaire dès que possible, donc on peut lire cet article dans cette revue. Et du coup c'est chouette des trucs que tu racontes sur pratique là, qui concernent aussi Cocos.
Si je peux me permettre aussi, c'est de dire de ma participation ce soir ou dans ce livre ou dans les différents ouvrages, c'est rendre compte aussi de nos activités, de cette expérience. Moi, je me rends compte quand j'échange ou quand je parle de ce qu'on fait, beaucoup de gens ne connaissent pas, et au fur et à mesure que je leur décris notre démarche, il y a souvent un étonnement et puis après un engouement, c'est un peu fort, mais il y a quelque chose qui fait que les gens sont plutôt ouverts et réactifs. Donc c'est quelque chose que je pense qui est vraiment positif, et il est important de faire connaître nos actions, parce que c'est quand même quelque chose encore de rare dans le champ, on va dire, social, culturel en France.
Je suis en train de penser à l'auditeur lambda qui doit se demander mais de quoi il parle. En fait, on est dans les hautes sphères là, et on a absolument pas expliqué ce que c'était ces ateliers de rue, comment ça se passe, c'est quoi au juste. Excuse-nous, l'auditeur lambda, vraiment, je suis désolée, on est un peu loin, un peu haut. Peut-être on pourrait redescendre et expliquer tout bêtement que l'atelier de rue, qu'est-ce qui se passe à Cocos? Il se passe depuis pas loin d'un an, tous les samedis à partir de 14h. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit bout d'espace-temps qui s'ouvre. Les gens peuvent s'approcher. Il y a des jeux, il y a des livres. Il y a de la laine si on a envie de tricoter ou de faire des pompons. Il y a des perles si on a envie de faire des bracelets. Il y a des crayons de couleur. Ah ouais, pour
c'est
ceux qui
bien
me
ça, les bracelets. Moi, je ne fais jamais des bracelets, à part la dernière fois où je suis allée. Pas des bracelets, mais déjà enfiler des perles. Quoi. Tu
oui,
vois,
voilà.
Ou, enfin, bon, couper
enfin, faire
un
des
de
trucs voilà.
Pour préparer un enfilage. Ouais.
Donc, et puis ça se finit avec un goûter sur les coups de officiellement 16 heures, quelquefois un peu plus. Des fois, on goûte avec une heure de retard hein, parce que ouais. On a plein de choses à faire. Et pourquoi ça se fait à Cocos et pas. Ça pourrait se faire sur la place de la République aussi. Hein. Pourquoi ça se fait à Cocos et pas.
C'est quand sur la place. C'est un autre jour peut-être. Mais il faut, ou ça peut être le même jour. Il faut voir comment font les gens dans le coin. Il y avait des trucs régulièrement sur la place de la République, les dimanches, et puis après, avant les vendredis et tout ça.
Oui,
c'était aussi ce truc de.
Oui,
on savait qu'on pouvait. Il y a aussi ce truc que moi je rebondis sur le truc. On sait qu'à l'atelier de rue, on peut y aller et rencontrer des gens qui ont l'habitude de venir ici. Et ça fait du bien à tout le monde, cette régularité. Et vraiment, y compris à moi, par exemple, qui ne viens pas systématiquement. Mais quand je suis là et je me dis, ah bah ouais, je sais que si je vais là à tel moment, et ben il y a ça. Et
on n'est pas obligé de venir.
Et à chaque fois, c'est différent. Du coup, je me dis à ça, mais il y a cet espace-là et qui est super
on
important.
On n'est pas obligé
pour
de venir. Ouais. On sait que avec une grande régularité, ça se passe, mais on n'est pas obligé. Moi, je tiens assez souvent le truc. Je fais partie des gens les réguliers qui sont là régulièrement. Il ne se passe pas effectivement toujours la même chose. C'est juste une possibilité, impossible. On n'est pas obligé, parce qu'il y a de la laine, on n'est pas obligé de tricoter. Parce qu'il y a des perles, on n'est pas obligé de faire des bracelets. Non, c'est une possibilité, c'est le possible. On vit dans un monde où c'est il y a tellement de possibilités qu'on ne fait plus rien. Et les choses simples, elles n'existent plus. Les possibles les plus basiques, c'est se dire bonjour... ça n'existe plus. Voilà, donc revenir à ça, revenir à un espace public, parce que ça se fait sur l'espace public, c'est pas chez quelqu'un, c'est dehors. L'espace public, c'est super important. On est en train de nous gratter l'espace public.
Mais on est en train, on considère aussi que l'appartement gratuit de l'espace social et solidaire du DIWAF aide à cet espace public, puisqu'on sort des trucs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de comment, qu'est-ce qu'on crée. On sort des trucs de quelque part, d'une petite pièce où tout est bien rangé, tout est bien. C'est cool, ça aussi. Voilà, on est sûr que le samedi, on a ça qui est à disposition, peut-être avec un autre truc ou quoi. Mais,
je pense que le jour où ils auront démoli la barre, il faudra trouver une autre solution. Parce que...
Il n'est pas né celui qui verra le jour où ils démoliront la barre, si vraiment son utilité. En tout cas, cet espace, moi, je trouve qu'il est pour l'instant utile.
L'espace social m'a mis la pression en me disant, au lieu de me. Comment dire l'espace social m'a dit, alors, t'as une idée quand le truc sera démoli, là, tu vas faire comment ?
Et ils ne savent pas que ça ne va pas être démoli.
Ouais, sûrement qu'ils ne savent pas. Et puis, surtout, je trouve que... il me semble que l'espace social aurait pu proposer une solution. Au lieu de me dire, est-ce que t'as trouvé une solution ? Venir me voir en me disant, qu'on réfléchisse ensemble à une solution. Ou que enfin voilà, il y a un truc, un espèce de renversement qui me dérange un petit peu.
En tout cas, là, c'est aussi le moment de dire là qu'il y a une utilité de cet espace public, de le signifier publiquement, d'en faire le. Et du coup, c'est vraiment ça participe à ce truc de sortir des trucs de quelque part. Et on sort effectivement les boules de pétanque, la guitare, les Legos et trois autres trucs. On va peut-être en faire que deux, mais il y a cette possibilité là. Oui. Et puis il y a le bac de perles qui est là, ou le truc peut-être qui sert pas, quoi. Peut-être qu'après on va le ranger. Et puis il y a aussi des choses nouvelles qui arrivent, des instruments de musique qui ont été construits pendant l'été.
On a un abonnement, je sais pas comment on dit, on a une carte à la médiathèque, et on a droit à 60 bouquins pour un temps indéterminé,
ouais,
je ne me rappelle
plus.
Du coup, je ne me gêne pas, je ramène plein de livres, je les change de temps en temps, des BD, ça y est, j'ai capté que les BD ça marche bien.
Donc il y a la caisse de livres qu'on sort aussi, qui est lourde, et puis qui des fois, on fait de la pétanque, mais des fois, il y a aussi des livres qui s'ouvrent, qui sont ouverts.
De la peinture, ça marche bien la peinture.
Si ça t'évoque quelque chose, Mélodie, ou on fait une pause?
tu m'as parlé, Nadine.
Ouais, Mélodie. Bien, en fait. Ouais, je te parle, Mélodie. Ça t'évoque quelque chose ou tu veux qu'on fasse une pause?
Non, j'entends quand même un petit peu. Bah oui, tout à fait.
On fait une. Ok,
du
coup.
Par rapport à ce que vous dites, vous complétez ou...
Soit t'as quelque chose à chaud à dire tout de suite, soit on fait une pause de 10 minutes et puis on reprend la ligne après.
Bon, on fait une pause, j'essaie de régler pour mieux entendre.
Yeah, ok, alors j'enchaîne tout de suite sur... Ça va. On va reparler de Notre-Dame-des-Landes, mais pas vraiment, en fait, une sorte de Notre-Dame-des-Landes mythique. On rentre dans l'héroïque fantasy parce que Stéphane est venu nous voir ce soir. Stéphane est un... Voilà, il manie la terre, le feu et les mots. Et il a reconnu Victor Hugo dans des choses qui se passent aujourd'hui. Il est très haut dans les sphères. Ah, tu peux lire un texte que tu as préparé.
Voilà, alors c'est comme tu viens de dire, donc c'est un peu, c'est pas moi le protagoniste forcément, c'est Victor Hugo, mais je me suis amusé à changer un peu les paroles. Et puis c'est tellement d'actualité avec ce qui se passe un peu aujourd'hui entre Notre-Dame-les-Landes et d'autres choses que voilà, c'est parti. Donc c'est une lettre ouverte et adressée aux hommes puissants et donc destructeurs. Vous qui avez fait venir l'électricité jusque dans nos campagnes les plus reculées. Vous qui avez fait des voitures, des trains, des avions pour que nous puissions nous déplacer rapidement. Vous qui avez fait des téléphones et autres internet des fabuleux outils de communication. Vous qui avez fait que l'école laïque reste une priorité dans notre société. Oui, la liste est longue de toutes ces choses considérables que vous avez faites. Eh bien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Tant que ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile. Tant que l'usure dévore nos campagnes. Tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle. Tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle qui vienne de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes et bons paysans et bons ouvriers, aux gens de cœur. Vous n'avez rien fait tant que l'esprit de révolution a pour auxiliaire la souffrance publique. Et vous n'avez rien fait tant que dans cette œuvre de destruction et de ténèbres qui se constitue souterrainement, l'homme méchant a pour collaborateur fatal, l'homme malheureux. Donc ça, c'était un texte quand même qui date de 1849 de Victor Hugo. C'est clair qu'on pourrait mettre... à l'ordre du jour et qui pourrait avoir été écrit hier, étant donné les circonstances actuelles aujourd'hui. Je vais enchaîner et c'est parti. Alors oui, j'accuse les maires qui dans leur ville interdisent la mendicité. J'accuse ceux qui dans un faux souci de bienveillance adoptent la vidéosurveillance. J'accuse ceux qui possédant des propriétés les font par des dangereux chiens gardés. J'accuse la DAH qui, en restant fière, souhaite expulser les petites gens en plein hiver. J'accuse la police de Die qui, de leur présence, ose réprimander les squatteurs d'ici. J'accuse la concierge du bâtiment qui ne joue pas son rôle en n'aimant pas les gens. Et enfin, j'accuse la mairie de Die qui, de la précarité, en fait son ennemi. J'accuse maintenant tous les méchants de Notre-Dame-des-Landes. J'accuse chaque CRS qui, par ses actes, se comporte comme un CRS. J'accuse notre police assassine qui, de jour en jour, toujours à Notre-Dame, augmente le nombre de leurs victimes. Je les accuse, eux et leur esprit guerrier. J'accuse ceux qui, de leur cerveau, les ont remplacés par des boucliers. J'accuse leur chef de les avoir endoctrinés afin que de leurs frères ne restent que des blessés. J'accuse ce maudit préfet pour qui son seul souci est de préserver son autorité. J'accuse le ministre de l'Intérieur qui, par ses actes fascisants, souhaite que le peuple se meure. J'accuse le Premier ministre, homme politique sinistre, qui par son avidité construit une actualité violente et triste. J'accuse le président de la République qui, de cette réalité, est totalement absent. Quel homme pathétique! Je l'accuse lui et de fait lui montre la mienne de République, qu'il puisse en garder mémoire et montrer cette image à ses enfants. Enfin, j'accuse Vinci, eux, les méchants, les pourris, cette racaille qui gangrène notre société. Je les accuse, les réduis et leur propose la mitraille. Eux qui jamais n'aiment, qui toujours veulent saccager. Merci d'avoir écouté ça, c'est juste une petite phrase pour finir. Par ces temps de disette sociale, culturelle et humaine au sens large, on nous dit de consommer sans modération, on nous dit de faire la fête, qu'elle sera belle. Alors ici et sans détour, je dis ni Dieu, ni Maître, ni Père Noël. Merci.
Eh bien, merci à toi.
Bon voilà, c'était un peu trash. Mais...
Cette balade, il fallait qu'on monte un peu nos deux micros à propos, si possible, pour voilà cette balade qui nous emmène du cœur de Die jusqu'au terrain de Cocos. Nous allons à pied avec juste un sac à la main qui fait qu'on va à l'atelier de rue. Il est samedi, 1h30. Quand on part du centre de Die, c'est le moment d'être à 2h. Et d'arriver et de se dire, tiens, du coup, il y a de la pédagogie sociale qui se brasse là. Et toi, Mélodie, tu reviendras nous voir au printemps. Et ce qu'on disait, pouvait t'évoquer des pratiques que tu as et dont tu peux parler. Allô, on t'entend pas, je sais pas.
Oui, c'est moi Aline qui doit parler là.
Pardon, excuse-moi. Oui, c'est à toi. Ouais, pardon.
D'accord. Alors, je vais tenter d'expliquer un peu comment je mène un atelier de rue. En fait, dans un atelier de rue, il y a toujours un déroulement. C'est-à-dire qu'on commence toujours par un temps d'accueil. Les enfants arrivent, les familles, on se dit bonjour, on peut se faire la bise, on peut se serrer dans les bras en fonction des relations, si on se connaît un peu. Plus ou moins. Donc on installe le matériel qui a été au préalable réfléchi. Donc en général, il y a un matériel qui est toujours de référence le même, c'est-à-dire que vous retrouverez toujours un coin livre, donc bibliothèque, un coin où il y a jeux de société et un coin, on va dire, petit enfant, c'est-à-dire permettre aux tout petits, vraiment les tout petits, de venir. Donc un matériel vraiment adapté à leur âge. Et puis en fonction aussi des personnes qui sont présentes, des envies des enfants ou des demandes, il peut y avoir, je sais pas, de la cuisine, de la CPA, de la poterie, des paires, de la couture, voilà. Ensuite, donc on répartit notre matériel et puis on va se poser. Et puis on va jouer et puis on va discuter tout en mettant en activité. Quand vient ce moment de commencer à ranger, on le verbalise, on le dit, les enfants, les familles le savent bien sûr. Donc on range dans les caisses notre matériel. Ensuite on s'assoit en rond pour faire le temps du goûter. C'est vraiment le moment où en fait, j'ai envie de dire, on est le plus posé tous ensemble. Autant lorsqu'il y a le déroulement de l'activité, c'est comme une ruche en fait, si vous voulez, ou une fourmilière ici. Tout le monde en activité, pas loin ou à côté, quoi. Puisque c'est le principe, il est que les personnes viennent quand ils veulent, repartent quand ils veulent. Voilà. Donc le goûter, c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais en général, il y a une grande adhésion. On se pose et puis on goûte, on mange des bonnes choses, quoi. Et puis pareil, on continue à discuter, donc des choses et d'autres, quoi. Et après, vient le temps, en fait, de se dire au revoir. Donc, c'est un temps assez important. C'est un moment où, voilà, on verbalise le fait que nous serons là la semaine prochaine, qu'on se retrouvera, qu'on souhaite une bonne semaine et qu'on aura plaisir de se retrouver. Donc, on peut, pareil, se faire des bisous et puis se dire au revoir. Voilà, c'est un moment, quand je dis crucial, parce que nous, on habite vraiment le quotidien des personnes et eux-mêmes habitent notre quotidien. Et ça peut être, pour certains enfants, une source d'angoisse, parce que c'est à ce moment-là, souvent, qu'ils peuvent se retrouver un peu seuls, puisque notre objectif aussi, c'est de travailler la solitude enfantine. C'est quelque chose qui est comment dire, qui est peu connu en France. On n'imagine pas que des enfants, même de 2-3 ans, peuvent être dehors, des fois tout seuls ou avec leurs grands frères, leurs grandes sœurs, parce qu'il y a une réalité où les parents, souvent des milieux peut-être les moins favorisés, doivent cumuler 2 emplois loin. Et voilà, mais que ce soit des enfants ou des adolescents, voilà. Ensuite, comment vous, j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment moi je, comment je vois un peu mon métier dans mon positionnement. Vous m'écoutez, vous m'entendez bien ou pas?
On t'entend bien, je crois. Oui, oui.
Ouais.
Oui, oui.
D'accord. Pour moi, il y a un positionnement d'ouverture, c'est-à-dire que quand on se place en atelier de rue, c'est d'être ouvert, de voir vraiment à la fois ce qui est le plus près, donc les enfants qui sont là, ce qui donne à voir, mais à la fois une vue d'ensemble, c'est-à-dire aussi les gens qui passent, les gens aussi qui sont à la fenêtre. Mine de rien, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas toujours revenir au début, mais qui regardent, qui nous observent. Et c'est une manière aussi des fois de les inviter. Des fois, ça m'arrive d'aller en bas de l'immeuble, leur parler la fenêtre et leur répéter qui on est, pourquoi on est là, et une manière de rentrer en contact.
Il y a Stéphane, moi, qui s'en va. Stéphane, tu veux dire au revoir dans le micro de Marianne. Il y a de Marianne, Stéphane. Voilà, il y a Stéphane qui va nous dire au revoir. Il a
oui, bonjour.
À la prochaine.
Merci. Du coup, au revoir. N'oubliez pas ni Dieu ni Maître ni Père Noël.
Et à bientôt dans Erdiwa. Ouais, voilà, Mélodie, on est dans un studio animé ce soir. Il y avait beaucoup de monde
ouais, tu parlais de la solitude en fan.
Voilà.
Bien aussi parce que je peux parler longtemps de ce que je fais quoi, mais après c'est mais aussi favoriser les échanges, donc c'est vraiment on essaie de faire que ça soit le plus multigénérationnel possible, donc les adolescents puissent prendre en charge des fois une animation et mener voilà une activité pour les plus petits et le contraire. Voilà, après il y a aussi je pense que les adultes de plus en plus à Cocos ont envie de venir, il y a des liens forts qui commencent à se créer. Voilà, est-ce que tu as d'autres questions?
C'est Marianne qui faisait une remarque, la solitude enfantine. Je dirais en tant qu'adulte la solitude en général. Mais du coup aussi la solitude enfantine qui est sans doute encore plus tue. Encore plus secrète, encore
oui,
plus tabou
secrète, ouais.
Que la solitude des adultes qui est déjà très méconnue. Quoi.
Ne savent pas tellement comment appréhender et comment travailler avec cette réalité-là.
Bah déjà, il faut pouvoir la réaliser qu'elle existe. Ce qui n'était pas mon cas, et le jour où ça m'est tombé dessus, ça m'a fait un peu drôle. De réaliser qu'effectivement... pour des enfants qui se retrouvent tout seuls, qui passent des longs temps tout seuls, ou avec le petit frère ou la petite sœur, ce qui est peut-être encore pire, que ça existe, pas forcément loin d'ici, mais dans notre environnement, c'est présent.
On remarque ce type de souffrance et
je dirais pas de souffrance, mais d'état de fait.
La souffrance aussi.
Ça génère des souffrances.
L'état de fait, où on constate l'état de fait.
Mais commencer par l'état de fait.
On s'en aperçoit. Ouais. Ces ateliers de rue, comment c'est lié à ça? Parce qu'en parler, c'est hyper important. Donc, est-ce qu'on en parle dans les ateliers de rue? En tout cas, c'est des trucs qu'on vit, en fait, aussi. Et qui, à la fois, sont comme un soin à ça, puisque c'est justement une présence, même si elle est minime, qu'elle est que 3 heures par semaine, et ça pourrait être plus, hein, c'est vraiment, ça peut être un appel à atelier de rue généralisé, parce que cette émission aussi, ça rompt, c'est vraiment une contradiction énorme à cette solitude, je pense. Tu dis dans le texte que tu as écrit, le tissu social à recoudre, Marianne, que quand tu arrives à 2h, tu sais que dès 2h moins le quart, dès avant 2h, il y a les jeunes qui comptent sur toi, qui sont là, ou une partie d'entre eux en tout cas, qui ont pu sortir à ce moment-là parce qu'il y a ça aussi, et que du coup qui attendent et qui sont
de pied
vraiment,
ferme.
De toute façon, même les fois où tu ne peux pas venir,
quelqu'un.
Tu es cité, tu es dans les attentes, et c'est hyper, Et puis un peu, ben, tout le monde qui vient est une personne exceptionnelle aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'aller dans un endroit et d'être attendu, même si on est inconnu, parce qu'il y a aussi des inconnus qui passent. C'est un endroit de promenade possible et de goûter à 16 heures. donc c'est un endroit anti-solitude et en même temps, ce que toi, tu dis que c'est présenté comme un travail particulier, un peu comme si c'était... je sais pas qu'il y a des mots qui sont mis dessus sur ce truc parce qu'il y a moi je vais parler un tout petit peu aussi. Il y a une chose de constater des états de fait ou des souffrances chez des gens et après de voir aussi entre nous comment ça, parce que bon, par exemple ce qui me vient c'est de parler de la solitude pour adultes quand on pense à la solitude des enfants qui je pense est encore plus tabou. Mais du coup, c'est parce que nous, ça nous renvoie aussi à des souffrances et à des trucs. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Et peut-être de parler de cette solitude à propos des ateliers de rue ou à côté, ou je sais pas. J'ai l'impression que tu donnes des pistes dans ton entretien parce que tu parles de moments où les adultes, je sais pas comment c'est formulé, se retrouvent pour parler de ce qu'ils vivent. À l'atelier de rue.
Oui, tout à fait. C'est vrai aussi pour les adultes. Après, ce qui se crée, c'est-à-dire qu'en fait, on pacifie les relations, on casse les préjugés. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une réelle transformation sociale. C'est qu'on agit sur le quotidien. Pour les adultes, c'est aussi, il y a souvent, c'est les parents, les mamans qui viennent, principalement. Après, bien sûr, peut-être par la suite, il y a des pères. Mais c'est aussi parler, des fois, de ce que c'est d'être parent, des fois d'être dépassé et de se sentir moins seul. Donc, on parle de coparentalité, c'est un mot assez à la mode, mais en même temps, c'est ça, c'est soutenir les uns les autres, mais pas que, c'est-à-dire que on peut trouver des fois des adultes qui reprennent des adolescents ou des enfants, et ça, qui ne sont pas les leurs. Et ça, moi, je pense que c'est très important. On dit qu'en Afrique, on dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Je crois que c'est vers ça, peut-être, qu'il faudrait recréer, en fait, enfin, retendre. Voilà. On dit souvent que les enfants ou les familles nous attendent, mais moi, dans mon quotidien, ce moment-là, il est aussi attendu pour moi. C'est quelque chose qui me nourrit, quoi, aussi, et j'ai toujours plaisir à y aller, quoi.
Cocos, il y a un aspect, il y a un aspect village, hein, je pense que les gens qui nous écoutent sur la FM connaissent. Ça fait comme trois immeubles avec un grand espace intérieur et un côté aussi. Ça m'évoquait ça. Une commune,
c'est vrai, oui.
Une commune, oserais-je
une commune,
dire.
Oui, mais
il y a quelque chose à trouver.
Un îlot.
À voir là-dedans. C'est hyper intéressant aussi, parce qu'il s'y passe pour ça, quoi, pour la configuration que ça a, comment est-ce qu'on habite cet endroit qui est vraiment à habiter, quoi. Il y a une sorte de hof au milieu, quoi. Hein. C'est le mot, c'est un truc d'architecture allemande qu'on retrouve beaucoup. Trois maisons qui donnent sur une cour intérieure comme ça, grande, dans laquelle il peut y avoir différentes choses. Une petite fabrique, là en l'occurrence, il y a un grand terrain dans lequel c'est possible de s'activer. un terrain de boule a été aplati, je n'ose pas dire construit. Mais très bien aplati, ensablé et très efficace. On vire un peu les grosses pierres à chaque fois et paf.
Cochonné.
Mélodie, ça te laisse sans voix. C'était un peu, je sais pas si toi tu voulais développer ce truc de comment est-ce que les gens qui s'occupent de l'atelier de rue peuvent parler ensemble de, comme ce soir on le fait un peu à la radio, peuvent parler ensemble de ce qui se passe et tout ça, quoi. Est-ce qu'il faudrait un deuxième atelier de rue ou est-ce que comment ça se fait des fois?
Sur la région parisienne, ça s'appelle un chantier de pédagogie sociale, où justement, c'est un temps où, durant une journée, des gens, des acteurs de tous milieux, si vous êtes mon verre, des parents, des animateurs, des travailleurs sociaux, se rencontrent, mettent en mots justement leurs pratiques et peuvent justement échanger, tiens, ce qui marche chez l'un, ce qui ne marche pas chez l'autre. Et en même temps, je dirais, il y a un aspect un peu théorie pratique. Et dans mon monde, ici, le courant de ce printemps, avec Laurent Roth et d'autres personnes, nous aimerions justement faire un grand chantier de pédagogie sociale. Donc on ne sait pas encore où les dates, mais c'est ouvert. Il y a des gens qui veulent être, moteur acteurs de ce futur, de cette future action, quoi, bah c'est le bienvenu. Il ne faut pas hésiter à me contacter, voilà, ou bien aller sur le site internet association internet Robinson. Et il y a une rubrique pédagogie sociale où il y aura différentes informations concernant ce futur chantier.
Donc ce chantier est porté en partie, en tout cas, on peut les contacter par l'association Intermed Robinson. On peut taper sur internet pour avoir ou avoir plus d'infos en venant lire la revue Notre École, dans lequel voilà, il y a un entretien où toi tu dis certaines choses à partir desquelles tu parles ce soir. Cette revue, elle est disponible à la bibliothèque InfoKiosque de la Cocoserie pour voilà, dès demain. Elle va passer du studio là-bas, elle sera publique. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Tu parles aussi d'un livre dans cette... non, si, ce que je voulais dire, hein, c'était il pourrait y avoir soit des préparations, soit des chantiers de pédagogie sociale à DIE aussi, pour qu'on produise aussi de la...
Bah, c'est une
la rencontre
idée.
Autour,
après,
autour
voilà,
de l'atelier de rue, et puis peut-être...
qui serait possible, ouais, c'est une très bonne idée, avec les parents aussi, des cocos, des adultes qui voudraient, quoi, ouais, c'est chouette.
Là, c'est au printemps. C'est parce que du coup, tu as dit qu'on ne savait pas où, mais ce sera.
Il y a un covoiturage qui pourrait partir de Die.
Voilà, ce sera en région parisienne.
Il y a des gens intéressés. Voilà. C'est possible que ça soit ici à Die, pourquoi pas, sûrement dans la région parisienne.
Ou peut-être décentral. Enfin, oui, avec avec un chantier. Un chantier, ça peut être aussi à plusieurs endroits. Et surtout pour des trucs comme ça qui sont des thèmes qu'on aborde souvent sur Radio DIY et puis qu'on continuera d'aborder. On fera à propos de cette revue Notre École déjà une troisième émission en janvier où on aura aussi un ou une invitée qui nous parlera d'un des sujets de cette revue Notre École et puis de trucs qui concernent l'éducation ou la non-éducation en général. Et là, dans la revue que je prends sous les yeux, il y a un livre auquel tu as participé et dont on parle. Voilà, alors les gens pourront se référer à l'article. Et il y a aussi un autre livre, Éducation et démocratie, les républiques d'enfants, de Romuald Avet et Michel Mialet, dont il y a un article, page 51. Et du coup, ce livre est sorti et parle de République d'enfants. Tu l'as lu, Mélodie ?
Non.
Ok. Moi non plus. Donc, si on veut en savoir plus. Mais le titre de l'article, des deux pages d'entretien avec les auteurs, font envie. Alors voilà, on peut essayer de trouver ce livre Éducation et démocratie, les républiques d'enfants à la médiathèque de Die. Et puis venir lire ce qu'en disent les auteurs sur la revue Notre École. Et je dis qu'on en parle souvent parce que cette émission touche à sa fin. Donc il est clair pour tous et toutes que cette émission n'est pas finie. Même si à 9h, on va passer à Psycho by Dub. Une superbe émission de dub. Qui permet de souffler et puis de reprendre pour moi après la libre antenne. Du coup, auditeur, auditrice, c'est possible d'appeler voilà, si vous avez des trucs à dire à partir de 10h ce soir. Et voilà, on peut continuer le téléphone et puis sinon, il y aura des trucs. Voilà. Mélodie, on te retrouve, tu as dit on peut te contacter. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit sur le site internet de Intermed, association Intermed Robinson, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un mail en écrivant Mélodie, je t'ai entendu à la radio et ça m'intéresse. C'est un peu ça que tu proposes quand tu dis on peut te contacter. À toi, Mélodie, si tu es là. Du coup, quand tu dis on peut te contacter, c'est qu'on peut passer par le site Intermed Robinson, t'envoyer un mail par l'intermédiaire de ce site t'envoyer, voilà, Mélodie, je t'ai entendu à la radio j'ai envie de te contacter pour ce truc de chantier, pédagogie sociale, qui aura lieu en région parisienne, tout ça.
Et si je peux rajouter aussi quelque chose. Il y a le livre Des lieux pour habiter le monde qui se trouve, enfin, qui est disponible à la bibliothèque de Dix.
C'est super. Ok, tu fais bien de le préciser parce que du coup, voilà, tu as saisi cette perche. Et cool. Donc, on a parlé à peu près de pas mal de trucs qu'on voulait parler. Marianne, toi, tu as quelque chose.
Oui, je crois qu'on a fait un petit tour là.
On a fait une première radio conférence. On peut lancer un petit parce qu'il reste à peine quelques secondes, les premières mesures des Horrivengers. Alors quittez pas, on reste à l'antenne. Voilà, normalement ça va passer si je monte le décompte. Voilà, on entend bien les Horrivengers, c'est une groupe de musique punk rock de Grenoble. Les Horrivengers, elles arrivent masquées. Voilà. Et je vais en dire plus sur ce groupe. Parce qu'on pourra en entendre très peu puisqu'il reste moins d'une minute avant que l'émission se finisse. On a le temps de dire au revoir à Mélodie si tu veux t'éloigner de ce portable, que je sais que t'aimes pas ça, du coup c'est vraiment super d'avoir passé ce temps avec nous. Salut, à bientôt en vrai.
Salut, merci.
Ou par internet.
Salut Mélodie.
Salut.
Nous, on a le temps de se dire au revoir parce qu'on a une. Voilà. Salut Marianne.
Au revoir à tous.
Au revoir auditrices, auditeurs sur les Horrivengers qu'on n'aura pas le temps d'écouter jusqu'au bout. Sauf Alice, il est en podcast, comme ça on peut se procurer quelque part. Hein. Ce sont des super. Qui tournent encore. On aura peut-être l'occasion, voilà, pour avoir avec Pédale Wawa.